Sono solo canzonette, ce ne sont que des chansonnettes.
Une émission de l'INIS sur l'histoire de la chanson italienne, présentée par
Jean Guichard,
Françoise Gibaja,
Angelo Sollima.
Bonjour à tous pour cette première émission de l'INIS sur l'histoire de la chanson italienne. Bonjour Françoise, bonjour Angelo, bonjour Laurent.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui, tout va bien.
Vous avez beaucoup chanté pendant les vacances ?
Ah, oui, quand même, oui.
Bon.
Il faisait tellement soleil qu'on se croyait presque en Italie.
Oui, c'est bien. Alors, cette année, on va reprendre nos émissions d'une autre façon. On s'est décidé à traiter, à parler de la chanson italienne par thème. Et puis, une des choses qui nous a probablement un peu décidé, c'est le premier thème dont qu'on commencera aujourd'hui, c'est les chansons de la Première Guerre mondiale, 1915-1918, parce que on fête le centenaire, on en parle beaucoup. Donc, et puis du coup, on s'est dit, mais pourquoi on parlerait pas des chansons de l'émigration, des chansons sur la mafia, des chansons sur le sport. Ça sera, je crois, notre deuxième émission. On chante beaucoup le sport et sur les chansons publicitaires, etc. Donc voilà, ça sera le thème de cette année et on commence aujourd'hui par une première émission sur les chansons de la Première Guerre mondiale, les chansons de guerre, les chansons qu'on chantait dans le civil hors du front, et puis les chansons pour la guerre, les chansons contre la guerre, etc. Pardon. Alors, vous savez que l'Italie ne rentre en guerre qu'en 1915.
Oui, justement, pourquoi alors 1915 ? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la France alors ?
Alors, par rapport à la France, à l'Allemagne, etc., vous savez qu'il y avait deux coalitions en Europe qui se tiraient dans les pattes pour des raisons très, très, qu'on connaît très bien et qui étaient très matérielles. Chacune voulait conquérir plus de territoires, entre autres en Afrique. Entre l'Allemagne, la France, l'Angleterre, la Russie et l'Allemagne dans les Balkans, etc. Et il y avait une première alliance qui était ce qu'on appelait la Triple Alliance, l'Empire germanique, l'Empire austro-hongrois, l'Autriche, et puis l'Empire ottoman. Et puis secrètement, il y avait la Roumanie. Et pendant longtemps, l'Italie s'est rapprochée de cette alliance tout simplement parce qu'elle pensait qu'elle en tirerait plus de profit. C'était pas du tout par amitié pour tel peuple ou tel autre. Et puis en face, il y avait une deuxième alliance qui était ce qu'on appelait la Triple Entente. C'était la France, la Russie et l'Angleterre. Il y avait des conventions militaires entre elles. Et c'est pas que ça manquait de rivalité entre la France et l'Angleterre en Afrique. Et pendant un an, l'Italie hésite. Je dirais, qu'est-ce qui va me rapporter le plus ? La Triple Alliance ou la Triple Entente ? Et puis fondamentalement, le peuple italien était neutraliste. Les Italiens n'avaient pas envie de faire la guerre. Que voulez-vous ? Que puisse penser de la guerre un paysan italien de Calabre. Qu'est-ce qu'il percevait de tout ça ? Quel intérêt pouvait-il voir dans la guerre ? Donc, l'Italie, on en parlera tout à l'heure, est très divisée. La majorité est neutraliste. Et puis, il y a une minorité d'interventionnistes. Il y en a au Parti Socialiste, qui est neutraliste, et c'est Mussolini, qui va être exclu du Parti Socialiste à cause de son interventionnisme, précisément. Et puis, ces différents intellectuels, le plus connu, c'est D'Annunzio, qui va se battre de façon, avec un art oratoire extraordinaire, pour l'entrée en guerre. Donc l'Italie hésite, et finalement, après avoir signé des pactes avec les uns et les autres, avoir discuté, qu'est-ce que tu me donneras si on gagne la guerre, et toi, qu'est-ce que tu me donneras, elle se décide à adhérer à la Triple Entente et s'allie à la France, à l'Angleterre et à la Russie. Et puis plus tard, les États-Unis entreront dans la guerre, mais seulement en 1917. Alors voilà pourquoi, entre l'entrée en guerre de 1914 et puis l'entrée en guerre de l'Italie en mai 1915, il y a une grande... un grand décalage. Espace, un grand décalage. Mmh. Et donc, voilà. Alors, il y a donc une opposition au départ entre les neutralistes et puis les interventionnistes. Alors, on va écouter tout de suite deux chansons, une chanson inspirée par les neutralistes et puis une chanson inspirée par les interventionnistes. Mais il faut bien penser que ça a été en Italie une lutte terrible entre les deux, et accentuée par les interventions très violentes donc des interventionnistes. Les neutralistes étaient largement majoritaires, mais ils étaient moins offensifs, ils étaient plus rationalistes. Des gens comme Giolitti disaient, mais que va nous rapporter la guerre, quoi. Mm-hmm. Tant plus que l'Italie était mal préparée à cette guerre, on en parlera tout à l'heure. Alors voilà une première chanson, c'est La ragazza neutrale. C'est de Corvetto Colombino, c'est ceux qui avaient déjà fait une chanson au moment de la guerre de Tripoli. L'Italie intervenait beaucoup en Afrique, elle cherchait à se faire un empire colonial, comme c'était un jeune État depuis 1861, et elle voulait un empire colonial comme la France et l'Angleterre. Elle a connu beaucoup d'échecs en Afrique, et donc elle cherchait à se rattraper. Alors, c'est une jeune femme qui dit « Il y a tant de jeunes gens autour de moi que je pourrais en faire un régiment. Ils sont tous comme le pain au four et pour m'avoir, ils prennent tous les risques. Qui veut me faire danser des valses viennoises? Qui m'invite à Nice pour le carnaval? Et je réponds à tous, je suis neutre. Redidonda, tant que durera la neutralité, la vie est belle, qui est avec moi, etc. » Et un autre, « Mon étoile, moi je suis parisien et je fais à tous un beau salut, je préfère, oui, ja, yes, ya, 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 la neutralité. » Donc vous voyez, je sais que je suis belle comme une fleur, que mon amour vaut 6 millions et que pour m'avoir, il m'offre monts et merveilles. Et moi qui les entends, je fais mes comptes, je souris à tous et je ne réponds pas mal, mais je dis non à tous et je les envoie promener et je dis oui, je t'aime, mais je suis neutre. Ridondindonda, tant que durera la neutralité. Allez, on l'écoute.
Yeah, la neutralità. E faccia tu.
Voilà, c'est significatif de ce que faisait l'Italie. Faccio i conti, je fais mes comptes. Et on négociait avec l'Allemagne, on négociait avec l'Angleterre, et on discutait avec la France. Et on se disait, mais avec la France, on a des intérêts contradictoires en Tunisie. Et puis les catholiques italiens, mais pas beaucoup la France, qui était considérée comme anticléricale et révolutionnaire, etc. C'est assez intéressant. Pardon. Et puis de l'autre côté, voilà un exemple de chanson interventionniste. C'est une chanson garibaldienne, parce que les garibaldiens étaient interventionnistes. Ils étaient pour la guerre. Pourquoi ? Parce qu'il fallait achever l'unité. L'unité était incomplète. Il y avait des terres italiennes qui n'étaient pas revenues à l'Italie, dans le nord-est de l'Italie, le Trentin, le Frioul, etc.
Le Veneto aussi,
non ? Non, le Veneto, non,
Friuli, Venezia Giulia.
Friuli, Venezia Giulia, et Trentino Alto Adige. Et pour les garibaldiens, les mazziniens, les républicains, il fallait achever l'unité. C'était une question de patriotisme, en quelque sorte. Et c'était le courant de gauche des interventionnistes. Ils étaient pour la guerre parce qu'il fallait se débarrasser de l'Autriche. Alors, c'est une chanson de Libero Bovio et Rodolfo Falvo de 1914 qui dit « Si pour ma patrie je pars demain, je ne verrai pas pleurer ma petite amie. Elle-même me mettra dans les mains une fleur rouge et une carabine et elle me dira par ses beaux yeux « Meurs pour venger tes frères. » il revient, Garibaldi, elle revient. » La chemise rouge, belle et sainte, elle nous protégera. Un d'abord, et puis mille et mille héros morts qui crient « Liberté !» Dans la petite maison où notre amour est né, ma petite, au printemps, tu broderas la carabine et la fleur des trois couleurs de ton drapeau. À l'heure du danger et de l'épreuve, tu feras flotter au vent ton petit drapeau. À ma maman, tu diras « Sois bénie par ta patrie qui t'a demandé un fils ». Attends, ma petite vieille, prie et attends. Ne pleure pas à l'heure du danger. Si ton fils ne revient pas, ma petite vieille, nous irons lui tenir compagnie. C'est significatif du style de l'époque, quoi. Il y a même l'évocation de la maman qui est prise en compte dans l'appel à partir à la guerre. Voilà, une chanson garibaldienne.
Se per la patria mia parto domani, piangere non vedrò la mia piccina, lei stessa metterà fra le mie mani un fiore rosso ed una carabina. Ed ella mi dirà con gli occhi belli, muori per vendicare i tuoi fratelli. Torna, torna Garibaldi, torna, la camicia rossa bella e santa, ti proteggerò Bruno prima, poi Costante e poi mille e mille eroi morti, gridano libertà! Nella casetta dove il nostro amore nacque piccina mia di primavera, ricamerai la carabina e il fiore sui tre colori della tua bandiera. Nell'ora del periglio e del cimento sventolerai la bandierina al Veneto. Torna, torna Garibaldi, torna la camicia rossa, bella e santa ti proteggerà. Bruno prima, poi Costante e poi mille e mille eroi morti, grida libertà! Mamma mia dirai, ti benedetta, dalla tua patria che ti chiese un figlio. Aspetta vecchia mia, prega ed aspetta, non piangere nell'ora del periglio. Se il figlio tuo non torna vecchia mia, andremo noi a tenergli compagnia. Torna, torna Garibaldi, torna, la camicia rossa della santa ti proteggerò. Bruno prima, poi Costante e poi mille e mille eroi morti, rida libertà!
Alors, il faut bien voir pourquoi les chansons, en fait, commencent à être socialement très importantes. Parce que ce que les historiens constatent, c'est que un auteur comme Malaparte, dans son ouvrage sur Caporetto, y avait beaucoup insisté, c'est que la guerre de 14 marque une rupture avec les guerres précédentes. Ce ne sont plus des professionnels qui font la guerre. C'était le cas autrefois, c'était des mercenaires ou des soldats de métier qui partaient au combat, et puis le peuple était là, il regardait et il subissait quand les soldats traversaient leurs terres, ravageaient tout, etc. La guerre de 14 change tout parce que c'est le peuple qui fait la guerre. C'est toute la population.
Des appelés, ce sont les appelés.
Voilà, ce sont les appelés, c'est plus des professionnels, c'est des gens du peuple, en majorité, le peuple, c'était des paysans. On les forme à toute vitesse, avec des moyens souvent ridiculement inadaptés, et on les envoie se faire tuer au front. Donc c'est le peuple qui fait la guerre maintenant. Et par conséquent, il faut le convaincre qu'il faut faire la guerre. Il faut le convaincre que la guerre, c'est une chose importante, c'est positif. Alors, les gouvernements vont commencer à s'intéresser beaucoup à la chanson, parce qu'on sait que ce peuple chante et qu'il est sensible à ce qu'on chante autour de lui et à ce que lui-même chante. Et alors, il va y avoir une production énorme entre 1914 et 1919, et puis ça continuera après. Et le fascisme, par exemple, va exploiter de façon immense la chanson pour sa propagande politique, et on n'arrêtera pas. Donc il y a un changement aussi dans l'importance de la chanson, parce que elle devient socialement un élément de propagande pour ce qu'a décidé le gouvernement.
Oui. Pour instruire le peuple, induire le peuple à la guerre.
Oui, voilà.
On entend la chanson qui dit mon fils part, et même si tu ne viens pas, il y a mes copines là qui vont me faire compagnie. C'est quoi ça? C'est la patrie.
Oui.
C'était plus important mourir pour la patrie que.
Il fallait convaincre le peuple de ça. Le peuple n'en était pas convaincu parce que ça va faire des dégâts terribles. Et puis ma petite amie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle brode mon drapeau et ma carabine.
C'est ça. Et ça, c'est les interventionnistes.
Voilà, c'est les interventionnistes.
Ils englobent la famille, en fait. Ils font en sorte que la famille
accepte cette situation.
Non seulement l'accepte, mais l'encourage.
L'encourage.
Alors, on aura ensuite beaucoup de chansons, d'appels à la guerre. J'en ai mis deux. une chanson patriotique qui a été extrêmement répandue. C'est souvent des petites scènes de guerre, des louanges de l'armée, comme celle-là, Aprite le porte, qui est une chanson traditionnelle d'un cantastorie. Ouvrez les portes, car passe, ouvrez les portes, car passe les hardis chasseurs alpins. Comme elle marche bien, la fanfare, la fanfare, la fanfare des chasseurs alpins. Il faut laisser la place au régiment qui défile, c'est ça qui est important. On l'écoute.
Aprite le porte, che passano, aprite le porte, che passano, i bersaglieri con la marcia bella, la banda con la marcia bella, la banda con la marcia bella, la banda, la banda. La banda del quartier e pa 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 Aprite le porte che passano, aprite le porte che passano, i bersaglieri con la marcia bella, la banda 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 del quartier.
Et il y a donc deux catégories de soldats là qu'on chante souvent. Ce sont les chasseurs alpins.
Il coro degli alpini.
On va avoir une multiplication de chœurs des chanteurs alpins. Des chasseurs alpins qui vont être de qualité, souvent très, très médiocre d'ailleurs. Et puis l'autre catégorie de militaires qu'on chante souvent, c'est les bersaglieri. Il bersaglio, c'est la cible. Et i bersaglieri, c'était les tireurs d'élite en principe.
Oui, c'est... mais eux, ils faisaient la même chose, ils défilaient.
Et voilà.
En courant, oui. En jouant.
En jouant, en courant, en chantant.
Et en vélo.
Souvent aussi, oui, oui. Et c'était nouveau à l'époque.
Oui, je le sais. Hein? Je le sais, mon père était un berger.
Ah bon? Et tout ça est fait pour entraîner les gens à marcher à la guerre, etc. Eh bien, on va écouter une autre chanson du même style, de Della Casa, elle est de 1915. Et c'est Avanti Marcia, en avant bataillon. Dans le bruit du canon, nous devons avec amour suivre le drapeau tricolore, toujours en avant bersagliere. Pour libérer tous nos frères, nous devons aller unis dans la même pensée. Le guerrier italien crie « Allons, l'heure est arrivée, le jour est arrivé ». Où tous nous devons partir, unissons-nous, c'est sûr, nous vaincrons. L'aigle devra trembler pour libérer tous nos frères. L'aigle, c'est évidemment l'aigle de l'Empire austro-hongrois, symbole de l'Empire austro-hongrois. Avanti marcia, en avant marche, allez à la guerre, avec joie.
Sempre avanti per salire.
C'est significatif, c'est le moment où la chanson va commencer à être produite industriellement. Et dans cette production de chansons, on va évidemment utiliser les chanteuses. On va utiliser les femmes. Elles vont chanter pour les militaires. C'est précieux, ça leur remonte le moral de voir une belle nana qui leur chante une chanson, qui leur dit « Allez-y les petits, je suis avec vous. Ah, ben, si t'es avec nous, alors c'est bien d'y aller ». Et celle-là, c'est significatif, elle est chantée par Inès, une chanteuse qui s'appelait Inès, et puis par Taki. Et c'est vraiment le début d'une autre époque de production de la chanson, quoi. Et puis, on va écouter quelques grandes chansons d'appel à la guerre. Il y en a une qui va devenir célèbre, qui est une grande chanson. C'est la Leggenda del Piave, que un grand compositeur de l'époque, E.A. Mario, écrit en 1918. Et c'est au moment où l'Italie vient de subir une grande défaite dans la guerre.
Caporetto.
Et tout le monde a dit, aussi bien dans les gens, les soldats, que le gouvernement, et Amario sera félicité par les pouvoirs pour cette chanson. On dit que ça a largement contribué à redonner le moral à la troupe. Parce que vous allez voir, le Piave murmurait, il y a une première strophe qui dit « Le Piave murmurait ». Alors, le Piave, jusqu'à la guerre, ce grand fleuve, donc dans le nord-est de l'Italie, s'appelait la Piave. Et puis, D'Annunzio a dit un jour, « Non, non, mais après, c'est pas normal, un grand fleuve qui est féminin, il faut qu'il soit masculin. C'est pas digne. »
C'est pas une rivière.
Il n'y a pas de rivière en Italie. Il n'y a que des fleuves.
C'est que des fleuves.
Et puis, un fleuve comme le Piave, qui a été un lieu de guerre, ça doit être masculin. Enfin, les femmes...
Ne font pas la guerre.
Ben non, puis les femmes, c'est autre chose. Enfin, c'est pour le repos des guerriers, etc. Et donc, D'Annunzio dit, il faut l'appeler Il Piave. Et effectivement, depuis, on appelle ce fleuve Il Piave. Alors, il dit, le Piave murmurait calme et paisible au passage des premiers fantassins le 24 mai, donc c'est le jour d'entrée en guerre d'Italie. L'armée marchait pour rejoindre la frontière, pour faire une barrière contre l'ennemi. C'est en silence que les fantassins passèrent cette nuit, car il fallait se taire et aller de l'avant. On entendait de temps en temps, depuis les rives aimées, tout bas et léger, l'exultation des eaux. C'était un présage doux et flatteur. Le Piave murmura, l'étranger ne passe pas. Et puis j'ai gardé une interprétation faite par les plus interventionnistes, et en particulier par les fascistes. Et il y a une voix qui commente, qui dit « Savoia, Savoia, sul trincerone a sinistra », donc qui donne des ordres de guerre. Et puis il y a une seconde strophe qui évoque une nuit triste, où on parla d'un sombre événement, c'est la défaite de Caporetto. Et le Piave murmura, il revient à l'étranger. Dans la troisième strophe, on évoque l'ennemi, et l'ennemi revint par orgueil et par faim. Il voulait se passer toutes ses convoitises. Il voyait la plaine ensoleillée de là-haut. Il voulait encore se rassasier et exulter comme alors. « Non !» dit le Piave. « Non !» dirent les fantassins, « que jamais plus l'ennemi ne fasse un pas de plus. » On vit le Piave faire gonfler ses rives, comme les fantassins les eaux combattaient, rouge du sang de l'ennemi hautain, le Piave murmura « Recule, ô étranger !» Et la dernière strophe, l'étranger recula jusqu'à Trieste, jusqu'à Trente, et la victoire délia ses ailes au vent, il fut sacré le pacte ancien, et dans les troupes on vit revenir Robert d'Anza ou Robattisti, la valeur italique brisa enfin les fourches et les armes du bourreau. Sûres furent les Alpes, libres les rives, et le Piave se tut, ses eaux s'apaisèrent, sur le sol de la patrie, les torves ennemis vaincus. La paix ne trouva ni opprimé, ni la patrie ne trouva ni étranger, ni ennemi. Et cette chanson va être la chanson de la victoire, ça va être la chanson qui poussera, qui encouragera beaucoup les soldats.
C'est le synonyme de la victoire de l'Italie.
Et c'est resté la Leggenda del Piave. Aujourd'hui, c'est une chanson qui est encore très, très connue, chantée, etc. Donc voilà un bel exemple de récupération de la chanson pour chanter, pour encourager les soldats à se battre et à repousser l'ennemi. On l'écoute, la Leggenda del Piave.
Parlò di un vasto evento, il Piave udiva l'ira e lo sgomento. Sai quanta gente ha visto venir giù lasciare il tetto, poiché il nemico irruppe a Caporetto. Troppo che volque dai lontani monti, venivano a gremir tutti i tuoi ponti. Udiva allora dalle violate sonde, sommesso e triste il mormorio dell'onde. Come un singhiozzo in quell'autunno nero, il Piave mormorò, ricordalo straniero. Savoia!
Circonfuso di gloria, non ha nome perché riassume le virtù di tutti i figli d'Italia, ma per tomba l'altare della patria.
E i figli cantano le gesta dei padri. Bambini, ora che cantate, pensate riverenti alla più grande gloria d'Italia.
Alors, vous voyez, dans la reprise de ces chansons, on a quelquefois modifié les paroles. Parce que dans la première version de Mario, on parlait de la trahison de Caporetto. Et puis après, on va changer, on va dire, on va parler de Fosco Evento, d'un événement triste, sombre. Et ainsi de suite, on ne dit pas l'onta consumata a Caporetto, mais l'ennemi a fait irruption à Caporetto. Parce que, entre autres, ces paroles avaient beaucoup irrité les soldats. Ils disaient, mais on n'a pas trahi, on a été mal organisé, et c'était vrai, par des généraux incompétents. Et si on a fui à Caporetto, c'était pas par lâcheté, etc. Et Caporetto est vraiment le point de rupture de l'histoire d'Italie dans la guerre. Malaparte, dans son livre sur Caporetto, dira « Caporetto, pour l'Italie, c'est l'équivalent de la révolution russe de 1917 ». Et son explication est intéressante. Et effectivement, il y aura après Caporetto, une reprise populaire extraordinaire. Et l'Italie va gagner la guerre contre une armée autrichienne qui était beaucoup plus puissante, beaucoup mieux armée,
mieux organisée.
Les généraux italiens étaient des minables au début de la guerre. Un homme comme Cadorna n'a jamais mis un pied au front. Il ne savait rien et il s'en foutait complètement. Il s'intéressait, il comptait le nombre de morts, de vivants et de blessés. C'est tout. Il s'intéressait à la propreté des baïonnettes. Il s'intéressait à la taille des officiers pour le recrutement. C'est-à-dire des choses sans importance.
Oui, c'était la chair pour eux.
Mais oui, les soldats ont vraiment été de la chair à canon.
On se
fichait qu'il y en ait 1000 de tués. Et il faut lire le livre de Loussou à ce propos. Il est extrêmement intéressant. Il raconte des histoires extraordinaires, comme celle de ce général qui vient dans une tranchée. Et puis on avait bouché une ouverture parce que en face, chez les Autrichiens, il y avait un sniper qui, dès qu'il voyait une tête dans l'ouverture, il tirait bien, il tuait quelqu'un. Alors on avait mis une plaque d'acier, mais on avait laissé un petit trou au milieu pour pouvoir de temps en temps regarder ce qui se passait. Et alors le général dit, mais pourquoi vous avez bouché ce trou? Alors on lui explique, bon, il dit, c'est ridicule. Il va il va devant l'ouverture, il met son œil dans le trou, et paf, il y a un sniper qui lui tire dessus.
Et il perd l'œil.
Et il est mort. Et Loussou raconte que les soldats étaient réjouis, parce qu'il y avait une telle sottise chez ce général qui ne comprenait rien à ce qui se passait. Et on va écrire tout au long de la guerre des... non seulement des chansons, mais des sortes de dialogues qu'on jouait devant les soldats, comme celui-ci qui raconte Victor Emmanuel au front. Victor Emmanuel III vient au front en 1916. Et alors, c'est une rhétorique extraordinaire. On est dans un hôpital, dans la tente d'un hôpital de campagne. Il y a un blessé, on amène un blessé, il est mort dans le transport. L'infirmière est comme par hasard une comtesse, bénévole qui vient soigner les petits soldats italiens, et dans le blessé elle reconnaît son fils. Alors elle commence par pleurer et puis elle se réjouit. Ah, elle dit, j'ai donné mon fils à la patrie, c'est formidable. Et arrive le roi qui a entendu ce qu'a dit l'infirmière, et lui il dit combien il aurait envie de perdre un fils aussi à la guerre pour la patrie. Et puis il y a une attaque autrichienne, alors l'officier dit au roi qui est de s'éloigner parce que c'est dangereux, les Autrichiens ne respectent pas la Croix-Rouge, et le roi veut rester avec eux, et tous crient « Vive l'Italie !» On va écouter ce petit dialogue parce que il y en a eu des quantités comme ça et c'est très significatif de ce qu'on faisait.
In questa tenda ospedale vi apposto?
Sì, signor colonnello, ve ne uno.
Conducono un ferito. Apprestatevi le cure necessarie.
Con tutto il cuore.
Eccolo. Ebbene?
Signor colonnello, il prode ufficiale è morto durante il tragitto.
Morto!
Gloria al suo nome, che la bandiera tricolore ricopre il cadavere dell'eroe.
Subito, signor colonnello. Ah! Mio figlio!
Tuo figlio!
Morto! Morto, mio Dio!
Coraggio, ti faccia animo, è morto da eroe per la patria, per il nobile ricca.
Morto, morto il mio Guido, ah, gli austriaci me l'hanno ucciso, maledetti, maledetti.
Contessa!
Avete ragione, è stato un momento di sconforto indegno di una madre italiana.
Sua maestà il re, attenzione!
Maestà!
Ho tutto ascoltato, coraggio!
Ne avrò! È dovere d'ogni madre italiano, in questo momento supremo, di dare con coraggio la vita dei figli per la grandezza dell'Italia.
Contessa Martelli, a nome di tutta Italia, io vi ringrazio. Signori, è una madre che perde il proprio figlio e inneggia alla patria.
Maestà, non ho perduto mio figlio, l'ho dato per la patria e ne vado orgoglioso.
Contessa, vi invidio. In questo momento vorrei che mio figlio stesso si trovasse in prima linea ad affrontare il fuoco del nemico, a cader da eroe per la patria. Anch'io allora potrei dire con orgoglio, avevo un figlio. Tu, Italia, me l'hai chiesto e io te l'ho dato. E se il sacrificio della mia vita potesse bastare ad assicurarti la vittoria, o patria mia, io volentieri te la darei.
Un attacco a questa posizione!
Dove è stata la bandiera della Croce Rossa?
Gli austriaci non hanno nulla di fatto!
Combattete il nemico da prodi! Con le armi in pugno! Non lo insultate! Siate italiani!
Obbediremo, maestà! Ma in questo posto la vostra vita è in pericolo! Vi preghiamo di recarvi fuori del tiro del fuoco nemico!
E in questo posto v'è pericolo di morte per i miei bravi soldati? Questo è il mio posto!
Viva il nostro re!
No! Non gridate, viva il re! Ma insieme a me dite, viva l'Italia!
Viva l'Italia!
Thank you.
Oui, c'est significatif. On jouait ces petits spectacles devant les soldats. Alors, évidemment...
C'était de la vraie propagande, quoi.
Ah, mais c'était de la propagande, ben oui, bien sûr. Il fallait convaincre les soldats. On verra à la fin probablement de la prochaine émission que cette guerre va susciter une opposition terrible à l'intérieur même de l'armée. Les soldats en ont assez d'être appelés à faire n'importe quoi au prix de leur vie. Ils savent qu'on va les... On leur fait faire des attaques de tranchées, par exemple. Ils sortent, ils se font massacrer par les Autrichiens, ça sert à rien. On verra l'épisode de Gorizia qui est célèbre. Et c'est la preuve que les officiers se fichent de leur vie, quoi. Et donc, il faut lutter contre ça et faire en sorte que le moral soit bon. Alors, on a une chanson, là, par exemple, Di qua di là del Piave, qui est très célèbre aussi, qui est chantée par un chœur de chasseurs alpins. Elle est peut-être reprise d'un chant populaire de cette région du Piave, publiée en 1870 déjà. Et on montre la jeune fille qui tombe amoureuse des soldats. Parce que, enfin, l'uniforme quand même. Françoise, qu'est-ce que vous en pensez?
Ah ben, ça y fait beaucoup.
Et donc, on dit, ici, de l'autre côté du Piave, et il y a une auberge, et là, il y a à boire et à manger, et un bon lit pour se reposer. Et après avoir mangé et bien bu, il dit, « Oh, la belle, si tu veux venir, c'est l'heure de faire l'amour. Je voudrais bien, pour une seule fois, pourtant je te prie de me laisser seule, je suis une fille à marier, enfin, je suis fiancée. Si tu es à marier, tu devais le dire avant, maintenant que tu as été avec les vieux alpins, tu n'es pas fille à marier. »
Oula.
Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Le soldat, il doit y avoir... on doit honorer le soldat. Et la fille qui est fiancée, on ne sait pas à qui, peut-être à un autre soldat, elle doit aller faire l'amour avec lui, quoi. Et cette auberge du Piave est une auberge réelle, qu'on connaît bien, où effectivement les soldats allaient se reposer de temps en temps. On l'écoute.
La gente bene.
avaient presque tous les droits, quoi, finalement. Il suffit qu'ils étaient...
Il fallait leur faire croire, ça.
Ah, ouais.
Et montrer que, bon, les filles étaient à leur disposition, parce que c'était les héros du moment, quoi.
Voilà, les héros, oui.
Mmh. Et donc, les héros, on les honore. On va coucher avec eux. Et par ailleurs, c'est un bon exemple du chœur des chasseurs alpins, ça. C'est un des grands chœurs, c'est le Coro del Monte Cauriol. C'est le style, c'est le style des chœurs. De...
C'est beau, hein, comme
oui.
chant, là,
oui.
Avec ses voix.
Oui, et ça séduisait beaucoup les gens, quoi. On écoutait avec plaisir et on enregistrait ce qui était dit, quoi. Et puis, voilà qu'on arrive en 1916. La guerre devient longue, lourde. Tout le monde avait dit, oh, ben, ça sera réglé en quelques mois, quoi. Et puis, ça continue, l'ennemi avance. On va arriver vers Caporetto, la défaite de Caporetto du 24 octobre au 9 novembre 1917. Et alors, il faut accentuer... la démonstration que cet ennemi est vraiment un monstre. Il faut créer une haine de l'Autrichien dans la population et les soldats italiens, parce qu'il faut tenir face à cette avance. Alors on a cette chanson de Di Napoli et Vincenzo Valente, qui sont deux auteurs importantes, chansons de l'époque. Elle est chantée par Roberto Ciaramella. C'est « Bambola ». Poupée. Alors la première strophe évoque le petit lieutenant qui est sur le front et qui rêve à sa jeune épouse qui est tranquillement couchée dans sa chambre dans le civil, et puis il doit partir à la bataille. Le lieutenant va en avant. Dans la deuxième strophe, on a la poupée. C'est une poupée, évidemment. Les femmes, c'est toujours ça, un peu quand même, c'est des poupées. Hein, bien sûr, c'est plus commode de jouer avec une poupée qu'avec une personne réelle. Et la poupée rêvait et souriait d'un sourire léger. Dans son petit lit, on aurait dit une poupée, une petite fleur qui éclot dans la neige. C'est pas joli, ça? Et puis, on entend des cris dans le lointain. Elle se réveille et elle jette un cri de terreur parce qu'il y a un homme qui est là dans sa chambre, un homme armé, c'est l'envahisseur qui a pénétré dans sa chambre. Nuit d'octobre est la troisième strophe. Nuit d'octobre, petite poupée, ton amour n'est pas là dans la nuit obscure. Ce soldat rit et s'approche et ton regard est plein de peur. Alors on imagine tout ce qu'il va faire, ce soldat. Dans cette nuit, tout fut dévasté parce que l'ennemi infâme y est passé. Mais le lendemain, à l'aube, ce soldat, dans cette chambre, fut retrouvé mort. Alors il l'a violée, mais elle l'a tuée après. Ah, voilà ce qu'il faut faire. On l'écoute, Bambola, la poupée.
D'ottobre, nuvole nel cielo, il Tenentino sogna la sua sposa, si vede a dolce bambola in un velo, sul reggimento tanto per riposa. Quando ad un tratto fischia la mitraglia, suona il cannone nell'oscurità, avanti, avanti, farve la battaglia, ed il tenente ardito innanzi va. Notte d'ottobre, bambola sognava e sorrideva ad un sorriso lieve. Nel suo lettuccio bambola sembrava un fiorellino che sputa tra la neve. A un tratto mille grida in lontananza si detta e getta un urlo di terrore. Un uomo vede lì nella sua stanza un uomo armato, il barbaro invasor. Thank you. notte d'ottobre, bando la piscina, non m'è il tuo amore, nella notte oscura, quel soldataccio ride e sta vicina, ed il tuo sguardo è pieno di paura. In quella notte tutto devastato, perché il nemico infame vi passò, ma l'indomani all'alba quel soldato in quella stanza uscito si trovò.
Oui, Françoise, vous disiez ?
Oui, je disais que l'accent par rapport à l'accent italien actuel, il est différent, quoi. On sent l'ancienneté de la langue de cette époque-là, quoi.
Oui, puis la prononciation, très rhétorique aussi.
Oui.
C'est très, très, très solennel, très...
Oui.
Alors, oui, effectivement, on roule beaucoup les R.
Oui.
C'est vrai, mais cette rhétorique fait partie de l'esprit de ces chansons. Il faut avoir de l'influence sur les gens, parce que c'est eux qui font la guerre maintenant, c'est plus des professionnels qui sont payés pour ça. Eux, ils sont à peu près pas payés, ils vont laisser leur vie, ils vont sacrifier leur famille et tout. Et donc, il faut agir sur leurs idées, sur leur morale. Et la chanson jouera un rôle important. Alors, la prochaine fois, on en écoutera d'autres, des chansons satiriques. Et puis, on évoquera aussi, alors, d'autres choses, la peur de mourir chez les civils et la peur de perdre leurs parents, les chansons d'amour, etc. Voilà, eh bien, bonne écoute, merci et au mois prochain.
Oui, au mois prochain.
Sono solo canzonette, ce ne sont que des chansonnettes.
Une émission de l'INIS sur l'histoire de la chanson italienne, présentée par...
Jean Guichard,
Françoise Gibaja,
Angelo Sollima.